Voilà, je vous propose de reprendre donc la matinée. Et je vous présente, j'ai le plaisir de vous présenter Michael Clavier, qui est normalien, agrégé docteur ès lettres et arts de l'Université de la Sorbonne, qui vit au Japon depuis 15 ans et professeur à l'Université de Chuo. Parmi ses publications, nous pouvons noter La tentation de la France, La tentation du Japon, chez Piquet en 2003, sur les échanges littéraires franco-japonais depuis Meiji. Un essai sur Céline, Céline et la chanson, aux éditions du Léraud en 2004. Alors, Louis Ferdinand Céline, pas Céline Dion, précise l'auteur. Voilà, un essai sur Céline. Plusieurs articles sur la culture japonaise et deux romans, Kizu, aux éditions Arléa, 2004, et Tokyo, petit portrait de l'aube, édition Gallimard, 2004. Apparaître également Le goût de Tokyo en octobre 2008 au Mercure de France. Voilà, je lui laisse la parole. Il va, le titre de son intervention est Rusé avec la clôture, portrait de Butor en volatile japonais.
Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Ça commence bien. Voilà. Donc oui, après les deux interventions brillantes, profondes et pertinentes de ce matin, j'arrive avec mon volatile et je vous préviens tout de suite qu'il sera d'une facture un peu plus légère, conformément à son titre. Alors, vous vous demandez sans doute quelle drôle d'idée m'a pris, quelle mouche m'a piqué de transformer ainsi Michel Butor en un volatile japonais. Alors, bien entendu, le spécimen Butor a l'habitude de ce genre de métamorphose, puisqu'il a été tour à tour portraituré, et parfois par lui-même, en jeune singe, en jeune escargot, en horticulteur itinérant, en passeur, en dieu Thoth. Je crois que c'est Mireille Kalkgruber dans le film que nous avons vu à l'Institut la dernière fois qui a fait un tout petit portrait de Michel Butor en dieu Thoth. Et hier matin encore, par le malicieux Olivier Amourmailleur, en femme japonaise. Alors, Michel Butor, vous qui aimez tant l'Égypte, combien devrez-vous subir encore de réincarnations? Et vous qui prisez tant le Japon, combien de métempsychoses? Parce que je crois que, mis à part le cafard, style Grégoire Samsa de Kafka, la blatte ou le blaireau, mis à part ces quelques animaux, presque rien ne vous aura été épargné. Mais après tout, c'est peut-être le rôle d'un écrivain que d'œuvrer avec ses lecteurs à cette espèce de dépersonnalisation pour transformer la personne, justement, en un foyer de virtualité et pour montrer à l'homme qu'il est libre de réorganiser les figurines à n'importe quel moment, dans n'importe quel ordre, et qu'il peut ainsi atteindre à une variété infinie du jeu de la vie. Mais alors, me direz-vous, pourquoi en volatile? La réponse est évidente, et cette réponse a été donnée déjà en partie par Michel Butor lui-même, lorsque, à plusieurs reprises, il s'est interrogé sur son patronyme, le Butor. Par exemple, par exemple, cette réflexion dans le livre qui s'appelle « Le retour du boomerang » au cours d'un entretien imaginaire avec Béatrice Didier. Butor, vous le savez, est le nom d'un oiseau. Mais c'est un oiseau qui est particulièrement livré au colibé, puisqu'il signifie aussi en français, hein, Butor en français, c'est une personne lourde, stupide, grossière, Littré le dit, qui ne se trompe jamais. Je lisais, par le plus grand des hasards, hier, une lettre de Flaubert à Louise Collet, une lettre de 1854, où Flaubert dit à Louise Collet « Je suis bœuf, sphinx, Butor, tout ce qu'il y a de plus énorme, de plus empâté et de plus lourd au moral comme au physique. » Vous voyez que le Butor est un oiseau particulièrement attaqué. L'enfant Butor en a souffert, nous dit l'écrivain Butor. L'enfant Butor a souffert de ses colibés jusqu'à ce qu'il s'aperçoive, à l'âge de 19 ans, que le Butor, en fait, est un oiseau tout à fait intelligent. Et il s'est aperçu que le butor est un oiseau intelligent, sympathique, par une lecture de l'histoire naturelle de Buffon. Le butor est un oiseau intelligent qui séjourne au milieu des roseaux, qui mène une vie solitaire et paisible, et qui est tourné aussi vers les étoiles, puisqu'on l'appelle aussi butor stellaris, en latin, le butor étoilé. Ainsi, c'est Buffon, le naturaliste, qui réconcilie butor avec son nom. Voilà l'histoire que nous a racontée Michel Butor, une sorte de version modernisée du vilain petit canard, ou une version inversée de l'albatros de Baudelaire. C'est en tout cas un bel exemple de sauvetage par les livres, par l'histoire, par l'écriture et par la mémoire. Mais l'histoire ne s'arrête peut-être pas là. Que se passe-t-il lorsque ce volatile Butor, migrant, le Butor est un oiseau migrateur, migrant vers des cieux encore plus lointains, traverse les temps, les espaces, les océans, et qu'il aborde au rivage du Japon. Que se passe-t-il lorsque, accomplissant une révolution de plus, le butor se pose dans un archipel où il n'a soudain plus le même nom, peut-être. Comment dit-on butor en japonais? Et où sont bouleversés, dans cet archipel, toutes les notions qui lui étaient habituelles d'esthétique, de botanique et de zoologie. Je me propose donc, dans les minutes qui viennent, d'examiner avec vous la place que tient le Japon dans l'œuvre de Michel Butor. Nous interrogeons cette place depuis ce matin et je procéderai, si vous le voulez bien, en six paragraphes successifs, comme un paravent, comme si je déployais avec vous le paravent du butor. Premier panneau de ce paravent, l'essor du butor, 1967. Alors, plusieurs sources concordantes datent votre premier voyage de 1967, mais apparemment ce serait plutôt 1966. Il y a une espèce de tremblement du temps qui se produit dès qu'on approche du Japon, c'est tout à fait normal. En tout cas, cette date de 67, peu importe, après tout, 66 ou 67, c'est cette période historique-là que je voudrais étudier pour commencer un peu avec vous. Premier voyage de Michel Butor au Japon. Évidemment, Michel Butor connaît déjà le Japon, notamment par une exposition qu'il a vue sur l'art japonais en 1958, mais tout de même, aller au Japon, faire le voyage, ce n'est pas la même chose. En faisant le voyage au Japon, on ouvre une porte, on fait glisser une cloison. Donc, il me semble important de s'arrêter un instant sur cette date de 66-67, parce que c'est une date qui est tout à fait importante, une date charnière dans la représentation du Japon dans la littérature française. Et je crois que le parcours de Michel Butor, son approche du Japon, serait difficilement compréhensible si on ne le mettait pas ainsi en rapport avec les auteurs qui l'ont précédé ou qui l'accompagnent, et si on ne les faisait pas jouer les uns avec les autres, ce que lui-même d'ailleurs n'a jamais cessé de faire. Alors, si la date de 67 me paraît importante, 66-67, si elle me paraît pouvoir être retenue comme une date repère, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en 1967, paraît la réédition d'un livre. Un livre qui s'appelle « Un barbare au Japon ». C'est un livre d'Henri Michaud. Ce livre, « Un barbare au Japon », vous le connaissez sans doute, c'est un livre qui a été écrit en 1933 et qui va être republié à plusieurs reprises, donc, et il va être réédité d'abord en 1945 et une deuxième fois en 1967. Quelle est la caractéristique d'Un barbare au Japon de Michaud? C'est que c'est le texte le plus méchant jamais écrit sur le Japon et sur les Japonais. Quelques exemples. Un barbare au Japon, 1933. Le Japon a un climat humide et traître. C'est l'endroit du monde où il y a le plus de tuberculose. Les femmes japonaises ont l'air de servantes, les jeunes de jolies soubrettes. Les femmes dans ce pays sont la création malheureuse et typique de ce peuple d'esthètes et de sergents qui n'a rien pu laisser dans son état naturel. La mentalité japonaise, selon Michaud, une mentalité d'insulaire fermée et orgueilleuse. La langue japonaise, selon Michaud, une langue qui, à l'entendre, paraît maigre et insignifiante. La religion, une religion d'insectes, le culte de la fourmilière, etc., 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 dans son style barbare. Michaud assassine le Japon de 1933, qui est bien sûr un archipel très militarisé à l'époque. Et le barbare au Japon, donc, qui fait partie de l'ensemble plus large, un barbare en Asie, est un livre extrêmement critique, sévère, méchant sur le Japon. Mais, en 1967, lors de la deuxième republication du livre, Michaud ajoute toute une série de notes, des notes en bas de page. Et ces notes reconfigurent un petit peu l'ensemble du livre, c'est-à-dire que toutes ces notes qui vont être rajoutées sont des notes positives. C'est-à-dire qu'à partir de 1967, Michaud avoue finalement qu'il s'est trompé, qu'il parlait d'un Japon très ciblé, très précis dans le temps, et que finalement le Japon, ce n'est sans doute pas ce peuple d'esthètes et de sergents uniquement. Donc, 1967 voit dans la représentation du Japon un tournant. Deuxième, et le Japon deviendra un pays extrêmement important pour Michaud, non seulement dans son écriture, mais dans son œuvre graphique également, qu'il exposera d'ailleurs à Tokyo, au grand magasin Seibu, en 1984. Donc le Japon va devenir un adjuvant poétique et graphique. 1967, deuxième exemple, c'est aussi la date de publication des poèmes franco-japonais. Les poèmes franco-japonais de Pierre Garnier et de Niikuni Seiichi, c'est un ensemble poétique qui mêle sur la même page des kanji, des idéogrammes japonais donc, et de l'écriture alphabétique. Donc c'est la première fois dans l'histoire de la littérature française et dans l'histoire de la littérature japonaise qu'on va mélanger ces deux écritures, en français, en japonais, avec vraiment un travail de collaboration, et comme le disent ces deux auteurs, Pierre Garnier et Niikuni Seiichi, c'est la première tentative de rapprocher, de joindre et de rendre indissociables dans une même œuvre les langues japonaises et françaises. De plus, ce livre, Les poèmes franco-japonais, sera publié en même temps en France et au Japon. Donc c'est une aventure littéraire et éditoriale, très importante, une aventure littéraire et éditoriale conjointe. Troisième exemple, à cette même date, 1967, Jacques Roubaud publie son premier recueil de poésie, qu'on appelle souvent Epsilon, qui en fait c'est le signe d'appartenance dans la théorie des ensembles, et le premier recueil de poésie de Roubaud n'est pas un livre au sens habituel, c'est ce qu'il nous dit, c'est une partie de Go. Une partie de Go poétique, et par exemple, pour en donner juste un seul exemple, ce livre contient 361 poèmes. Pourquoi 361 ? Parce que 361, c'est 19 multiplié par 19, et que sur un plateau de Go, vous avez exactement 361 intersections dans les lignes. Donc, là aussi, il y a une espèce d'entrée du Japon dans la poétique même du livre de Roubaud. Enfin, quatrième et dernier exemple, au moment même où Michel Butor va se diriger vers le Japon pour la première fois, en 1966, Roland Barthes, évidemment, arrive au Japon en mai 1966. Barthes vient sur l'invitation de Maurice Pinguet, qui est alors directeur de l'Institut franco-japonais de Tokyo. Il vient diriger un séminaire sur l'analyse structurale du récit. Et évidemment, c'est à l'occasion de cette première visite et de quelques visites qui vont suivre, deux autres visites en 67 et en 69, que Barthes va commencer à écrire son fameux livre « L'Empire des signes » pour redécouvrir donc le potentiel de ce pays qui permet, je cite, « de défaire notre réel sous l'effet d'autres découpages, d'autres syntaxes, ce Japon qui permet de découvrir des positions inouïes du sujet dans l'énonciation, de déplacer sa topologie. » Il y a donc des années comme ça qui valent des siècles, des instants où tout s'accélère et se condense, une sorte de crête du temps où les choses prennent leur fil, leur tournure, leur vitesse la plus franche. 1967, sortant d'une représentation surannée et quelque peu folklorique, où un siècle de japonisme pictural et littéraire l'avait peu à peu engoncé, japonisme littéraire non exempt de considérations idéologiques, comme chez Michaud ou comme chez Loti. Sortant donc de cette impasse, quelques écrivains français soudain font le voyage, passent la frontière. Ce ne sont pas tout à fait les premiers, évidemment, mais c'est quand même un mouvement de groupe très important. Michel Butor dit souvent que le voyage aux États-Unis a constitué pour les écrivains de sa génération un passage obligé, comme quand on allait à Rome auparavant, ou bien au XIXe siècle, quand les écrivains partaient en Orient. Je crois qu'aux alentours de la fin des années 60 et du début des années 70, le voyage au Japon constitue aussi une sorte de passage, pas obligé, mais un passage où une certaine idée, une certaine complétude, évidemment fantasmée de la littérature française, est remise en question. Deuxièmement, deuxième panneau, pour bien comprendre la révolution que Butor et quelques autres, je pense notamment à Roupou, dont il est parfois très proche, vont apporter dans la représentation du Japon, et il faut bien se rappeler que, évidemment, le Japon a occupé une place très importante dans la littérature française, mais que ce Japon, en littérature, a souvent été considéré, en fait, comme une espèce d'annexe des arts décoratifs. C'est un critique d'art, Philippe Burti, qui, en 1872, crée le mot « japonisme ». Le Japon est donc, dès le début, relié aux estampes, à des perspectives d'optique. Les concours disent que c'est une révolution dans l'optique occidentale. Et pendant près d'un siècle, ce sont d'abord des peintres et des collectionneurs qui vont porter le goût du Japon sur la scène française. Et parmi les écrivains, ce sont des hommes de théâtre. Des hommes de théâtre, des metteurs en scène, Claudel bien sûr, mais aussi Dulin ou Coppo. Donc si le japonisme révolutionne la peinture en mettant à la disposition des artistes des clés novatrices, en ouvrant des voies inédites au sein de la crise de la représentation, comme la composition décentrée, la vue plongeante, les distorsions de la perspective, les cadrages insolites, etc., etc. Le japonisme, le Japon en littérature, va rester, quant à lui, cantonné dans un rôle à peu près uniquement thématique, et même décoratif. On pourrait en montrer de nombreux exemples, chez Maupassant, par exemple, chez les concours, où les concours s'intéressent presque uniquement à l'art japonais. Et longtemps, le Japon dans la littérature française, c'est ça, c'est-à-dire des oiseaux découpés, des feuilles coloriées, des petits éventails, des petits écrans. Et c'est pour cela, évidemment, que le Japon, alors que le Japon dans les arts plastiques est associé à une modernité qui semble inépuisable jusqu'à aujourd'hui, dans l'architecture même, dans le mobilier, dans le textile, dans le design, dans la mode, le Japon est associé à la modernité. En littérature, si vous regardez un peu les écrivains français qui sont associés au Japon jusque dans les années 60-70, eh bien, ce sont des écrivains qui ont souvent une petite couleur obsolète. Un exotisme de pacotille, comme Loti, des implications idéologiques douteuses, comme Loti encore une fois, ou bien comme Claude Farrère. Donc le japonisme, en fait, ne semble pas pouvoir trouver pendant très longtemps, pendant presque un siècle, je crois, sa place dans la grande histoire littéraire. Il entre dans cette histoire par la bande, par des auteurs méconnus, sinon méprisés, Judith Gautier, Camille Maucler, Kiku Yamata, Thomas Roca. Donc le Japon pose un vrai problème, je crois, à une certaine façon d'écrire en Occident. Et un exemple typique, c'est Loti. Loti a un problème avec le Japon parce que le Japon remet en quelque sorte en question sa façon d'écrire. C'est tout à fait clair dans Madame Chrysanthème, où dans Madame Chrysanthème, vous avez trois personnages principaux, Madame Chrysanthème, Yves et Loti lui-même. Yves, qui est le marin, le frère symbolique du personnage Loti. Et il y a donc un ménage à trois. Et comme le dit Loti lui-même, ce ménage à trois, dans n'importe quel roman français de l'époque, pourrait déboucher sur une espèce de gros drame fratricide, de roman à la fois égrillard et sentimental. Et Loti écrit la phrase suivante, « Il y aurait là matière à un gros drame fratricide si nous étions dans un autre pays que celui-ci, mais nous sommes au Japon, et vu l'influence de ce milieu qui atténue, qui rapetisse, qui hydrolatise, il n'en résultera rien du tout. » Donc, indubitablement, il y a une certaine mise en tension de la représentation du monde qui s'opère par le biais de ce référent, le Japon, et cette mise en tension est révélatrice de certaines impasses du grand récit occidental. C'est dans cette perspective, je crois, qu'il faut estimer le travail de Butor. Car, au risque de le cabrer, en froissant sa modestie, je crois que peu d'écrivains sont allés aussi loin que lui dans la remise en cause, justement, de ces clichés. C'est le troisième panneau du paravent que je vous propose d'ouvrir, qui s'intitule « Poétique du déplacement ». À première vue, les thématiques de Michel Butor, lorsqu'il s'intéresse au Japon, ne sont pas très éloignées des écrivains qui se sont intéressés au Japon avant lui. Par exemple, la liste des 21 classiques de l'art japonais, qui figure dans Transit B, ce n'est pas une liste très originale. Elle croise de grandes œuvres abordées avant lui par les Goncourt, par exemple. Les 53 étapes du Tokaido, les 100 vues du Fuji, les Goncourt en avaient parlé. Les mythes, les sites, la Villa Katsura, le pavillon d'argent, le Horyuji, Claudel en a largement parlé et à de multiples reprises. Les jardins, les sculptures, les rouleaux qu'il évoque, Malraux en a peuplé son musée imaginaire. Donc vous voyez bien que ce qui va être remarquable et à proprement parler inouï, ce ne sont pas les thèmes. Mais Butor ne va pas se contenter de commenter à son tour ses tableaux, ses rouleaux, ses temples, ses jardins. Il le fait déjà fort bien. René de Secati, grand connaisseur du Japon, écrivait dans Europe, la revue Europe, qu'il avait rarement vu une telle sympathie et une telle connaissance culturelle de l'art du Japon. Mais ce n'est pas là l'apport le plus important de Butor. L'apport le plus important de Michel Butor, c'est qu'il va inscrire toute cette thématique qui a déjà été abordée à plusieurs reprises par des écrivains, il va l'inscrire dans une structure, pour ainsi dire, japonaise et en même temps internationale. C'est ce que je vais étudier maintenant avec vous. Une structure japonaise d'abord. Pourquoi ? Prenons par exemple le transit. Transit A, et vous connaissez transit B. Dès la première page consacrée au Japon, le ton est donné. Voici cette première phrase. Ceci est la dernière page du livre français, mais la première page du livre japonais. C'est-à-dire que Michel Butor va prendre en considération les possibilités de la physique du livre japonais, où l'ordre de lecture est inversé par rapport au livre français. Et il va donc proposer une solution éditoriale tout à fait insolite, et tout à fait neuve, et si vous montrez ce livre à vos étudiants comme je l'ai fait récemment, vous allez voir qu'il garde un vrai pouvoir d'étonnement, hein, ce livre qui se renverse, qui se retourne, ce n'est pas un livre banal, évidemment. Donc l'ouvrage surprend. Évidemment, un tel ouvrage n'a ni début ni fin, on ne sait pas trop par où commencer, on entre à peu près où on veut, on le lit dans n'importe quel ordre, et ceci évidemment n'est pas sans rapport avec le pouvoir d'ébranlement que le Japon, avec d'autres pays, provoque. S'échelonnant de gauche à droite, ou peut-être devrait-on dire d'ouest en est, les textes de transit A et de transit B se disposent les uns à côté des autres, comme s'ils étaient découpés dans un seul gigantesque rouleau. Comme ces rouleaux, justement, que Michel Butor décrit et analyse dans le livre. Vous voyez que ici, nous ne sommes plus seulement dans le registre d'un accessoire décoratif ou d'un commentaire thématique, mais nous sommes dans une pratique d'écriture qui emprunte son procédé à des techniques japonaises, techniques picturales, et qui en propose une sorte d'équivalent. Ce faisant, Michel Butor ouvre un autre mode de lecture et une possibilité supplémentaire permise par le Japon, entre autres, dans son projet de poésie. Pour sortir un peu du débat un peu stérile que nous avions ce matin sur orientalisme, néo-orientalisme, on voit bien ici qu'il y a au moins deux manières d'écrire le Japon. Au moins. La première manière, c'est de désigner avec des mots une réalité extérieure, de donner à voir une espèce de réalité japonaise plus ou moins bien reconstruite. C'est la tentation donc d'un certain japonisme, descriptif, décoratif, plus ou moins bien informé, souvent colporteur de clichés, qui existe encore aujourd'hui dans la littérature française. Mais il y a une autre façon de faire, qui existent aussi aujourd'hui, sans doute de manière plus minoritaire, et qui ne se contentent pas simplement de produire un discours ou un savoir sur le Japon, en restant en dehors. C'est cette deuxième manière qui n'a pas une fonction de dépaysement, de distraction, de divertissement, mais elle favorise des formes d'interfécondité, quand Butor rencontre Hiroshige, par exemple, et quand il lui emprunte la forme du paravent, des formes d'interfécondité, et c'est cette méthode, je crois, qu'a choisi Michel Butor. Structure japonaise. Quatrièmement, poétique de la relation, structure internationale. Quand on entre dans Transit A et dans Transit B, on n'est pas au bout de ses surprises parce que le livre va littéralement nous promener, vous le savez, entre plusieurs villes, plusieurs pays, plusieurs continents. Paris, Mexique, Genève, Égypte, Canada, Japon. Et là, vous voyez bien que ces pays sont mis en relation, c'est pour ça que j'utilise ce terme de poétique de la relation, terme que j'emprunte à Édouard Glissant, dont le livre Poétique de la relation est publié en 1990, 2 ans avant Transit, et on sera peut-être bien inspiré un jour de lire ensemble ces 2 œuvres. Je sais que Michel Butor a une formation philosophique, je ne sais pas s'il connaît Édouard Glissant et la poétique de la relation, mais en tout cas, il y a là des thèmes et une façon d'envisager le monde et la littérature qui sont parfois étonnamment proches. Dès lors, on voit bien que ce n'est pas seulement le Japon qui est en jeu, c'est le monde. Butor va relier, va relayer, il va guetter les rapports et les mélanges entre les lieux, les pays, les identités, les cultures. Un exemple, une phrase de Transit A. Dans la résonance du bronze le plus catholique, je guette l'intrusion des vagues d'un gong bouddhiste ou des échelons d'un maillet shinto. Ce sont donc des sortes d'exercices d'anatomie comparative, car tout comme il y a des Butors chez Buffon, il y a des Buffons chez Butor. Et cet exercice d'anatomie comparative renouvelle la vision du Japon, un peu dans le sillage d'un autre grand voyageur qui est Rimbaud. Chez Rimbaud, vous le savez, il s'agissait d'un dérèglement de tous les sens. Butor le fait d'une manière différente. Il ne produit pas un immense dérèglement de tous les sens illuminatoire comme chez Rimbaud, mais il va transformer délicatement le réglage de la vision et comme une focale qui s'adapte peu à peu à plusieurs pays. Ainsi est affirmé un nouveau mode d'existence, de circulation et de fonctionnement du discours poétique qui est lié à une réflexion sur la relation à l'autre dans le monde d'aujourd'hui, un autre qu'il ne faut pas chercher à raisonner frontalement ou à pénétrer progressivement, mais un autre qui se dirait au contraire par retour et par détour, par approche successive, un peu comme quand on regarde un paravent qui n'est jamais, regardable en entier, il faut toujours se plier, c'est le cas de le dire, se plier à un certain angle d'approche. Cette façon de travailler, pour reprendre une discussion que nous avions ce matin avec Chris Reins-Chikuma, cette façon de travailler est éminemment politique, évidemment. Et d'ailleurs, l'œuvre du Butor nous parle politique à chaque instant. Elle ne nous en parle pas de manière classique, banale, mais il faudrait être sourd quand même pour ne pas l'entendre. Par exemple, lorsqu'il évoque Genève, il est rare que lorsque Michel Butor évoque la ville de Genève, il ne nous rappelle pas qu'il s'agit de la ville des grandes institutions internationales censées protéger ou promouvoir la recherche de la paix. Lorsqu'il évoque le Japon, il ne passe pas sous silence le viol. C'est le mot qu'il utilise, le viol du Japon au moment de la rencontre au début de l'ère Meiji. C'est pourquoi j'avais ce matin un peu de difficulté avec l'adjectif néo-orientalisant. Ce gyroscope, ce boomerang, lorsqu'il évoque le Mexique, il parle de la conquête. Ce gyroscope, ce boomerang, met en place, touche par touche, une réflexion sur les émigrants, les émigrantes, les réfugiés politiques, les personnes déplacées. Il y a des textes de Butor où c'est plus visible. Par exemple, un beau texte, très beau texte, « Comment écrire pour Jasper Johns » où là on a une manière de, d'aborder politiquement l'œuvre qui est beaucoup plus frontale, beaucoup plus claire. Mais ce que Butor appelle la danse générale des nationalités, et qu'il oppose à la danse macabre des Monet, dans un texte qui s'appelle « Ce qu'on voit depuis l'écart », la danse macabre des Monet, ça a aujourd'hui une résonance ô combien actuelle, eh bien, cette danse générale des nationalités, elle est présente par la structure même du livre, donc c'est pas de manière thématique ou banale, elle est présente dans la construction même du livre. Et ça, c'est un geste effectivement à la fois poétique et politique. Dans ce monde en proie à la folie des renfermements et, de et des clôtures, le mieux à faire est de devenir un peu japonais ou un peu mexicain. Et je suis certain qu'on pourrait trouver évidemment le même type d'analyse que je viens de faire avec le Japon pour le Mexique, le Canada, les États-Unis, etc. Donc un peu mexicain, un peu canadien, un peu américain, un peu japonais, c'est, je crois, ce qu'il est devenu au cours de ses multiples pérégrinations, ses migrations, et je crois d'ailleurs qu'il est fort heureux de cet état civil très incertain. Donc il ne s'agit pas seulement de déjouer les formes usuelles du livre, les protocoles de narration, il s'agit aussi de déjouer un certain ordre du monde, une certaine lecture du monde qui nous est imposée aujourd'hui. Il s'agit de redonner à l'autre sa place, d'où l'extraordinaire système de dédicace dans la poésie de Butor. Lisez les poèmes de Butor, la première chose que vous lisez à chaque fois, c'est « à » à quelqu'un. Tous les poèmes sont dédiés, systématiquement. C'est un homme qui passe sa vie à donner et à donner de la poésie. Donc, voilà encore une façon qu'on pourrait étudier, de donner à l'autre sa place dans le texte du monde et de faire de chaque texte un envoi. Alors, la respiration, l'espoir peuvent se faufiler et produire ce texte à la hauteur de la dévastation qui nous vise. Mais il est temps maintenant d'ouvrir le dernier panneau, le sixième panneau de notre paravent, et il nous faut, je crois, puisque j'ai dit que l'œuvre de Butor évidemment, n'existerait pas sans ses lecteurs, mais qu'elle met le lecteur, les dédicataires, à la première place, au cœur du projet poétique. Il est donc temps de chercher nous-mêmes à aller un peu plus loin pour achever de tracer ce portrait de Butor en volatile, japonais. Lecteur qui referait mieux cette région de mon livre en la lisant, vous ne manquerez pas d'y inclure les développements qui s'imposent. Je prends acte, j'obéis, et je propose le développement suivant sur un Butor japonais. Le Butor, on l'a dit, est un oiseau européen, mais dont l'aire de distribution est très vaste. On le trouve aussi en Asie. Par exemple, le Butor est répertorié dans la somme de Henry Seebohm, The Birds of the Japanese Empire, les oiseaux de l'Empire japonais, publié à Londres en 1890. Nous avons déjà quelques Butor japonais. Au Japon, on trouve le Butor particulièrement au lac Biwa, Biwako, le plus grand des lacs d'eau douce du Japon. Troisième le plus vieux lac au monde. Le premier c'est Baïkal, le deuxième le Tanganyika, le troisième c'est le Japon. Le Biwako, 670 km², fournissant de l'eau potable à 15 millions de personnes et donc à quelques Butors de passage. Le Biwako, vous le savez, est situé dans la région de Shiga, préfecture de Shiga, au nord-est de l'ancienne capitale, Kyoto, et la proximité de Kyoto et de Nara, évidemment, fait que le Butor, ou les oiseaux de la famille du Butor, sont particulièrement cités dans la littérature japonaise, et en particulier dans la poésie et les récits de bataille. L'oiseau Butor le plus cité, la famille du Butor, pas le Butor lui-même, mais un cousin, un volatile très proche, c'est le héron. Le héron gris, ou en japonais, le héron bleu, Aosagi. Aosagi, le héron, fait même partie des kigo, les mots de saison du haïku. Donc quand vous voyez un héron bleu dans une poésie, ça veut dire l'été. C'est un mot de saison qui rappelle l'été. On en trouve chez Basho, un exemple. Shiru neburu, Aosagi no mino, Toto to sayo. Le héron qui dort tout le jour est en fait un animal très respectable. Un deuxième exemple de Busan. Yu kaze ya, mizu wa osagi no hagi wo utsu. Le vent du soir, l'eau clapote aux pattes du héros. J'ai traduit ça moi-même. Nous avons dans la salle un des meilleurs, sinon le meilleur traducteur du japonais, M. Nakamura Ryoji, qui pourra retraduire de manière beaucoup plus efficace et fidèle, sans doute. Donc, nous avons des butors hérons. C'est la même famille. Mais le butor, si je puis dire, eh bien, si on regarde dans les dictionnaires franco-japonais, on s'aperçoit que ce terme butor est souvent traduit par une appellation très étrange. Et j'ai demandé à plusieurs de mes amis japonais, qui eux-mêmes ont eu un mouvement d'étonnement, le butor en japonais se dit sanka no goi. Je vais expliciter tout à l'heure un peu plus les kanji, les idéogrammes, et ce qui frappe tout de suite, c'est que le sanka no goi, en Asie, le butor en Asie, a une bien meilleure réputation que le butor en France. En Chine, par exemple, dans la province du Yunnan et dans les régions du Tibet autonome, de moins en moins autonome d'ailleurs, le peuple Qian utilise les butors pour trouver des trésors. La raison en est simple, les oiseaux mènent les villageois vers les points d'eau où ils s'en vont pour boire. Donc vous suivez le butor et vous trouverez de l'eau et surtout du sel qui apparaît à la surface lorsque l'eau s'évapore. Et découvrir du sel, dont le rôle est essentiel dans l'économie locale, c'est comme découvrir un trésor. Donc, le butor est un oiseau trésor, en Chine. Mais au Japon. Au Japon, la légende du butor est peut-être plus belle encore. Le Sanka no Goi porte en effet un nom très mystérieux, très énigmatique, qui vient des circonstances étranges où il a été découvert. Sanka signifie, c'est le kanji de montagne, Fujisan no San, et ka c'est ie, la maison. Sanka signifie donc la maison de la montagne, ou la montagne de la maison. C'est très étonnant pour un oiseau qui est censé nicher dans les roseaux sur les rives du fleuve, mais cette étymologie nous rappelle que le butor est un oiseau paradoxal, de boue et de plaine, mais aussi de cime et de canopée. Sanka. Sanka no goi. Goi désigne en japonais un titre honorifique de l'aristocratie japonaise. Goi, c'est le cinquième rang. L'oiseau du cinquième rang. Pourquoi est-ce que le butor japonais est appelé oiseau du cinquième rang? Pour le savoir, il faut faire un petit détour par une histoire japonaise, au Xe siècle. Nous sommes au Xe siècle. Règne alors sur l'archipel l'empereur Daigo, Daigo Tenno, 60e empereur du Japon, qui a régné de 897 à 930. Un jour, l'empereur voit une espèce d'oiseau qu'il intrigue et qu'il trouve en même temps très beau, et demande à ses vassaux, à ses soldats, d'aller chercher l'oiseau. L'oiseau est capturé, il revient vers l'empereur, il est apporté à l'empereur, à la cour, et alors le butor fait une très forte impression. C'est un oiseau doux, docile, calme, et son port, nous dit-on, est empli de noblesse. L'empereur décide alors de lui conférer le cinquième rang dans la hiérarchie de la cour. Décision exceptionnelle, faut-il le préciser, pour un tel volatile. Pour donner une idée de l'importance de ce cinquième rang, sachez qu'à certaines époques dans l'aristocratie de Heian, à partir du cinquième rang, quand on était dans le cinquième rang, on avait droit à un terrain. On avait le droit d'avoir un terrain aux alentours de la cour, à partir du cinquième rang. Il faut aussi préciser que le règne de Daigo, cet empereur fou de butor, le règne de Daigo constitue une période de rayonnement culturel intense au sein de l'époque Heian. C'est l'empereur Daigo qui ordonne en 905 la compilation de la première anthologie de Waka, le Kokin Wakashu, dont il confie la rédaction à Ki no Tsurayuki. Première compilation de Waka, 1111 Waka, qui représente un siècle et demi de création poétique, et où figurera notamment la poétesse Ono no Komachi. Voyez comment, par une dernière rotation, nous voici rendus à notre point de départ. Il y a dans cette histoire un retournement incongru mais savoureux, semblable à celui que Michel Butor décrivait dans Retour du boomerang, et que j'ai rappelé tout à l'heure. Le Butor français, cette âne, ce balourd, cette bête, cette brute, cette ganache grossière, ce malotru, ce maroufle, ce mufle, le butor français est considéré par l'empereur japonais des poètes comme un oiseau courtois et délicat, gentilhomme et intelligent, distingué et galant. Cette volatile malheureuse qui, maudissant sa curiosité, traînant l'aile et tirant le pied demi-morte et demi-boiteuse, comme disait La Fontaine dans Les Deux Pigeons, cette volatile malheureuse, la voici adoubée au rang d'une sommité aristocratique, passant en quelque sorte du poulailler au prétoire, de la basse-cour à la cour. La littérature regorge de ces noms d'oiseaux, malfamés ou graciles, soudain devenus pour notre plaisir des phénix merveilleux qui enchantent leurs lecteurs et les aident à vivre et à penser. C'est pourquoi, pour terminer, je proposerai de nommer désormais notre butor national et international d'une périphrase qui lui rendra enfin justice, le héron du Japon. Après le cygne de Cambrai, Fénelon, le cygne de Mantoue, Virgile, ou encore l'aigle de Meaux, Boileau, voici que s'envole dans le ciel de la littérature le héron du Japon. Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'un écrivain français s'envole vers l'archipel. Voyez Claudel, l'oiseau noir dans le soleil levant. Ce ne serait pas la première fois qu'un écrivain français s'envole vers l'archipel pour y trouver sa manière d'être enfin lui-même grâce au détour révolutionnaire par la parole de l'étranger. Tel est, je crois, pour finir, le butin du butor. Je vous remercie.
Pour cet exposé à la fois léger, humoristique, mais profond, qui nous fait en plus survoler un siècle d'histoire littéraire, ce qui est très bien pour replacer l'œuvre de Butor et la voir réhabiliter donc d'une certaine façon, mais en tout cas le personnage. Peut-être qu'une question, on est un peu pressé par le temps, je crois, parce que la cantine, si nous voulons qu'il nous. Ah, on négocie, d'accord, mais bon. Il ne faudrait pas qu'il ne reste que miette pour nous pendant du temps, donc il faudra peut-être accélérer un petit peu.
Si c'est possible, j'aimerais savoir si vous avez lu Édouard Glissant, Poétique de la Relation, ou si.
Je connais très bien Édouard Glissant, c'est un ami depuis longtemps, mais je n'ai pas lu Poétique de la Relation, mais en fait j'ai lu beaucoup d'autres choses de lui. Donc c'est un ami. Voilà. Alors, je ne devrais pas avoir droit à la parole maintenant, et je vous remercie.
D'autres questions ?
Michael a parlé tout à l'heure de état civil incertain. Moi, c'est une question très très personnelle. Est-ce qu'il y a entre toi et Michel Butor quelques sentiments de communauté, d'identité avec cet état civil incertain qui fait que tu as si bien senti ce vol du héron? Pardon de poser une question personnelle.
Il est évident que, c'est ce que disait Chris ce matin, quand on travaille sur un écrivain, c'est qu'on l'aime. Pour répondre à ta question de manière très précise, évidemment oui. Évidemment oui. Bon, je ne vais pas raconter ma vie ici, mais il est évident que je suis d'une famille créole. Je vis au Japon depuis 15 ans. Je suis moi-même une espèce de volatile. Et volatile, vous savez, il y a l'adjectif et le substantif. Un volatile, c'est un oiseau. Mais volatile, ça veut dire qu'on est porté par le vent, hein, comme le pollen ou la poussière. mais aussi qu'on est menacé à chaque instant d'être volatilisé. Donc oui, bien sûr, dans mon parcours personnel, dans ma vie personnelle, et dans les auteurs que j'ai choisi de traiter, évidemment, cette problématique d'un état civil incertain est là, elle est profonde, et évidemment. Oui.
Donc, je voudrais vous d'abord remercier pour votre exposé qui démontre qu'il faut toujours se rappeler des soins homéopathiques. Vous avez emprunté le même chemin que les oiseaux plutôt en français pour démontrer le contraire à la japonaise. Et donc c'est pourquoi je trouve que vous avez choisi d'avoir de la homéopathie qui soigne pas la même chose. La question est simplement si on se hausse à ce niveau-là de votre interprétation, est-ce qu'il n'y a pas là implicitement une interrogation du point de vue? Donc, vous avez démontré le point de vue du butor français, vous avez démontré le point de vue du butor japonais, et est-ce que se cache là peut-être l'interrogation plus large qui dit ou qui nous contraint toujours que si on voit quelque chose qu'on ne comprend pas, ou si on voit quelque chose qu'on dévalorise, ou si on perçoit quelque chose qui est dévalorisé, est-ce que la première contrainte pour le critique littéraire ou pour quelqu'un qui pense n'est pas justement de chercher le point de vue où on voit le contraire? Donc où on valorise ce qui est dévalorisé, mais aussi qu'on dégage des aspects critiques de ce qui est valorisé.
Pour le critique, je ne sais pas, pour l'écrivain, ça me paraît tout à fait évident, mais là, encore une fois, Michel Butor, qui est un écrivain, répondra mille fois mieux que moi. Il est évident que, à mon sens, nous vivons dans un monde aujourd'hui qui fait la guerre à tout ce qui titube, à tout ce qui chancelle, et dans un monde où la figure du migrant est vue d'une manière totalement négative et noire. Alors là, on peut prendre l'exemple au Japon, on peut le prendre aux États-Unis, on peut le prendre en France, où on nous bassine avec l'immigration subie, comme si la migration est tout de suite liée à une souffrance, et pas celle des migrants eux-mêmes, mais celle des pays où on accueille les migrants qui, soi-disant, souffriraient dans ne sait quel trouble. Donc il me semble évident, à mon avis, qu'un écrivain aujourd'hui, quand il écrit, effectivement, doit prendre ce parti-là. Le parti du migrant, le parti de l'immigré ou de l'émigrant. Et de montrer que par la circulation, la traduction, ce monde dans lequel nous vivons peut encore être un petit peu respirable. Alors après, les critiques, mon Dieu, les critiques travaillent sur les œuvres qu'ils aiment, et chacun voit un peu midi à sa porte. Moi-même, je ne suis pas du tout persuadé d'avoir la réponse à votre question. Sur les écrivains, oui, je pense que Il faut absolument prendre le contre-pied. Le contre-pied des discours dominants. Un écrivain, c'est ça, c'est un minoritaire. Je crois que c'est Chris qui disait ce matin, les œuvres ont été faites par des esclaves. Je ne sais pas si toutes les œuvres ont été faites par des esclaves, mais Céline dédiait Féry pour une autre fois. Je sais que Céline n'est pas toujours un exemple à suivre, mais il dédiait Féry pour une autre fois aux malades, aux chiens et aux prisonniers. Voilà. Donc il est évident que le discours de la littérature, si aujourd'hui la littérature peut avoir un rôle, alors qu'elle est souvent dévalorisée, regardez le nombre de livres qui paraissent sur la fin de la littérature, le déclin de la littérature, regardez dans les universités japonaises la place de plus en plus réduite et restreinte qui est allouée à la littérature, en France également, dans les colloques, dans l'organisation de colloques, regardez les parts de subventions, parlez-en à Olivier Montmeilleur, la littérature représente aujourd'hui, je crois, cette espèce de discours minoritaire, périphérique, qui nous manque. Oe Kenzaburo a écrit toute son œuvre à partir d'un tout petit village de Shikoku, un village qui n'existe même plus sur la carte. Et Oe disait qu'il peut écrire sur le monde entier, justement parce qu'il est parti de ce point de vue négligé, de ce point de vue périphérique, qui remet en question même la notion de centre-périphérie. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, mais peut-être de tout temps, je ne sais pas, on va faire de généralisations abusives, mais en tout cas aujourd'hui, je suis absolument persuadé, pour moi, que la littérature, c'est ce discours-là.
Thomas, si aussi, c'était plein d'enthousiasme, mais certainement plein de bonnes informations, c'est très intéressant. Mais je voudrais revenir encore une fois à ce problème, comment dire, politique. Tu dis, et je suis tout à fait d'accord, qu'en fait, l'art, la littérature, la manière de transformer, du temps, par exemple, utilise, de faire voir le monde d'une manière différente grâce à des formes expérimentales nouvelles, etc., est une forme politique. Et je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est intéressant, c'est que tu viens de citer Eugène Zavoulon, par exemple. Et tu dis toi-même que Eugène Zavoulon voyait le monde à partir de son visage. Et là, justement, tu touches quelque chose qui est, je dirais, typiquement franco-français par rapport au monde anglo-saxon. C'est qu'il y a un refus dans l'attitude vis-à-vis du féminisme, par exemple en France, dans l'attitude du multiculturalisme en France, de voir au-delà de du citoyen abstrait. Et quand tu cites l'exemple de Eugène Zavoulon, Eugène Zavoulon est capable d'écrire le monde à propos du monde entier parce qu'il considère le monde concret de son village. Et ce que justement j'essaie de dire, dans le petit point, justement c'est un point mineur, parce que c'est encore une fois, j'ai essayé de montrer que Butor faisait un effort extraordinaire pour justement sortir de ce qui pouvait être considéré comme orientalisme ou néo-orientalisme. Il reste que, si tu ne considères pas le village japonais, dans le cas de Eugène Zavoulon par exemple, cette critique nécessaire, du point de vue abstrait, doit inclure aussi un point de vue concret, et ça, ça manque, à mon avis, chez de nombreux artistes qui parlent des autres, finalement. Ils parlent des autres, tu l'as dit toi-même, d'une manière abstraite, si tu veux. Et c'est nécessaire, ça permet une distance, encore une fois, extraordinaire. Mais il manque, à mon avis, souvent, une manière concrète. Et ton exemple, Eugène Zavoulon, à mon avis, il est révélateur dans ce sens.
Pourquoi? Parce que Eugène Zavoulon ne parle pas de manière concrète.
Si, justement, c'est ce que je dis. Oui. C'est que Eugène Zavoulon, justement, parvient à faire les deux. C'est-à-dire qu'il parvient à parler du monde entier à partir du village. C'est-à-dire qu'il parle à la fois d'une perspective très concrète, le village, et en même temps d'une perspective très abstraite, le monde entier. Donc les deux sont joints, là. Et ce que je dis, c'est que les deux sont nécessaires, si tu veux. Et qu'il y a une tendance, à mon avis, dans une certaine vision française qu'on retrouve dans le féminisme, enfin, je pense que tout le monde est familier avec la critique, si tu veux, de l'attitude française vis-à-vis du féminisme, par exemple, ou vis-à-vis du multiculturalisme, c'est qu'il considère un citoyen abstrait, si tu veux. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de métis, il y a un citoyen abstrait, il n'est pas blanc non plus supposé.
Mais, tout à fait, mais ça je suis d'accord, hein. Mais cette critique ne s'adresse pas à Butor. Parce que, mais non, cette critique ne peut pas s'adresser à Butor. C'est pas parce qu'on parle uniquement de tableaux. Les tableaux, c'est quelque chose de très concret. Ça change la vie des gens. Des rouleaux, des peintures, des poèmes, ça change. Alors évidemment, on va reparler de la lessiveuse, la lessive de Marie-Jo. Ce matin, tu disais, il faudrait non seulement nous parler des poèmes ou des écrits de Seishonagon, mais qu'on en sache un peu plus sur ses dessous, sur sa lessive. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on ne décrit pas un monde social tel que tu aurais envie ou que certaines personnes auraient envie que ce monde soit décrit qu'on ne porte pas un message politique tout aussi concret. Et d'ailleurs, en plus, cet aspect-là n'est pas absent de l'œuvre de Butor sur le Japon. Par exemple, il y a un moment donné où il revient à Paris et il dit « je suis dans le métro parisien, mais je me rappelle, tout d'un coup, je me rappelle de ces magasins de nouilles, de ramen, soba, je ne sais pas. » Donc, ça apparaît aussi.
Non, mais concret, on ne peut pas dire parler des nouilles. Ici, je parle pas des nouilles, mais on parle des problèmes des vestiges japonais.
Oui, mais là,
des problèmes existentiels, des problèmes
existentiels des Japonais, mais...
C'est pas la nouille qui est concrète, mais c'est l'effet de la
nouille. C'est concret. Hein.
Je suis désolé, mais il va falloir.
Non, mais on va reprendre plus tard cette discussion en mangeant quelques nouilles très concrètement.
Oui.
Voilà.
Merci.